peu différemment, mais bon, on va essayer de faire le lien. La question que tu m'avais envoyée était comment la recherche peut aider à évaluer ce qui marche.
Oui, c'est des nuances.
Alors, comment dirais-je? Moi, je dirais, et après je vais décomposer, je dirais en essayant de faire aussi bien que possible son travail de chercheur. Et donc, je vais essayer de montrer en quoi ça consiste et en rappelant que on a travaillé pendant 5 ans sur cette école-là. Donc, attention, hein, je ne parle pas, moi, de pédagogie Freinet en général, hein, c'est une position, mais qui rejoint finalement assez, je crois, celle des collègues qui enseignent dans cette école. C'est une école Freinet, c'est-à-dire c'est une manière de faire vivre et de pratiquer la pédagogie Freinet, et il y en a d'autres, hein, puisque le mouvement Freinet est varié, diversifié, ces mises en pratique sont assez diversifiées. Donc on a suivi, nous, pendant 5 ans, cette école avec une équipe d'une dizaine de chercheurs qui étaient des didacticiens, des sociologues, des psychologues, etc., etc. Alors, je dis ça, pourquoi je dis ça? Et je vais être lourd. C'est parce que je crois qu'on manque d'évaluation sur les pédagogies alternatives et leurs effets. Et donc, globalement, on est dans des approches globales, plus ou moins sympathiques ou sympathisantes, ou plus ou moins sur le mode de la dénégation. Mais quand j'ai cherché auparavant, est-ce qu'on disposait d'études un peu comme ça, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, je le dis, et je le dis d'autant plus que, y compris avec des gens, et notamment certains sociologues avec qui j'ai de grandes proximités intellectuelles, de travail, des liens d'amitié, à certains moments, je trouve que sur ce terrain-là, ils ne raisonnent plus en chercheurs. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, que certaines pédagogies modernistes ou alternatives, sans aller plus loin, enferment les enfants des milieux populaires là où le son n'aide pas à progresser. Et là, je dis, dans ces passages de livres, attention, ce n'est pas l'ensemble des travaux, dans ces passages de livres, ce n'est plus en chercheur que le raisonnement se développe. Et donc, nous, notre truc, c'était d'essayer de dire, on va essayer de voir et de se donner le temps et les moyens, c'est-à-dire, je crois, de construire, un avis qui puisse être recevable et discutable en recherche. Ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas acceptables et recevables sur d'autres terrains, hein, mais c'est celui-là. Alors, du coup, ça expliquait aussi, et ceci est discutable, et je crois qu'il faudra le discuter, qu'au départ, nous ne sommes pas rentrés dans la recherche-action, nous avons pris nos distances, nous avons évité au départ toute forme de connivence pour pouvoir établir une distance, et une distance, très forte au début. Hein. On a mis 2 ans avant de leur renvoyer les premiers résultats de nos travaux, afin de ne pas influer justement sur leur pratique. Hein, donc voilà, c'est un parti pris, il faut le savoir, mais c'est aussi une manière de leur rendre hommage, de dire qu'ils sont suffisamment intelligents et suffisamment en mouvement pour s'emparer de n'importe quel retour ou indice de retour. Alors, ayant dit ça, maintenant, on a travaillé fondamentalement sur 3 dimensions. Et je tiens à la distinction de ces 3 dimensions, même si, là encore, elles sont à l'évidence discutables. C'est, je crois, un des principes du travail en recherche, que de considérer que tout ce qu'on avance est discutable. Ou si ça n'a pas été discuté, c'est qu'on a oublié de le discuter. Alors, la première dimension, c'est la description de ce qui est fait, de ce qui est pratiqué. Je crois que très souvent, on en reste, à des a priori qui reposent soit sur les principes de référence, soit sur les déclarations des acteurs. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que ça aurait pu vouloir dire pour nous? C'est aller relire l'intégrale de Célestin Freinet, ce qui n'est jamais d'ailleurs du temps perdu, ce qui est très très intéressant. C'est aussi prendre au pied de la lettre les déclarations de nos collègues enseignants, etc. Ou c'est se contenter finalement de carottes ponctuelles hein, en termes de temps d'observation. Alors, nous, on est parti de l'idée que ce qui se faisait ne correspondait pas forcément à ce que Célestin Freinet écrivait et à ce que disaient nos collègues. Voilà, c'est pas un truc de méfiance, c'est on va voir par nous-mêmes ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'effectivement, pendant 5 ans, on a observé, avec des observations ponctuelles de chacun des 10 membres de l'équipe qu'on mettait en commun, avec des observations donc, qui étaient prévues en tant que telles, des observations de plus longue durée, où il pouvait y avoir quelqu'un qui restait une semaine du lundi matin au samedi midi dans la classe, et ça donne immédiatement une toute autre vue aussi sur ce qui se passe, avec aussi des observations ponctuelles non organisées, qui ne sont pas forcément légitimes en recherche, ça dépend dans quel cadre de recherche, mais qui sont intéressantes, c'est tous les moments informels où nous étions avec nos collègues. Par exemple, on mangeait avec eux parce qu'on était là le midi, etc. Et là, on apprend aussi des tas de choses parce qu'il y a constamment des choses qui se passent dans les écoles. On a aussi procédé avec des déclarations sollicitées, que ce soit questionnaires et entretiens, que ce soit avec les maîtres, avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec des intervenants extérieurs dans l'école, avec le personnel de service, etc. etc. Hein, bon. Alors j'attire votre attention dessus parce que très souvent le personnel de service est un peu l'oublié et c'est très intéressant dans les expérimentations de voir la place et comment ils vont reconstruire ça, d'autant plus qu'ils étaient là avant. Si vous voulez. Donc, ils ont cette vision et les changements de fonctionnement des enfants sont très, très intéressants de ce point de vue-là. Et puis, bien sûr, on a aussi analysé tout ce qui pouvait être les déclarations, malgré tout, des acteurs, que ce soit envers nous ou à l'extérieur, comment ils parlaient de ce qu'ils faisaient aussi. Bon. Voilà. Mais donc, il nous a semblé important d'essayer de décrire ce qui était fait et d'arriver entre nous à un consensus sur ce qui était fait, qu'on leur a d'ailleurs renvoyé à un moment assez formalisé, pour qu'ils réagissent et éventuellement qu'ils manifestent soit leur accord, soit leur désaccord, etc. Bon. Deuxième chose, on a essayé de décrire aussi précisément que possible, au moins dans notre esprit, les performances. Alors le terme est discutable, hein, mais bon, je l'emploie, il n'a aucune connotation, il n'est pas rattaché du tout un cadre chomskien. Donc voilà, on a analysé les performances des élèves, c'est-à-dire leur production, comment ils s'y prenaient, tout ça, voilà. Et là encore, on a appliqué quelques principes. On a essayé de voir ça dans le maximum de domaines, disciplinaires, extradisciplinaires, etc. Dans des situations normales pour cette école, dans des situations construites. C'est-à-dire que nous, chercheurs, on construisait, mais en fait, on a essayé de limiter ça au maximum, mais bon. Et donc, là aussi, on a construit ça en observant, avec des déclarations sollicitées auprès des élèves, toujours entretien, questionnaire, en rapport avec des tâches non reliées directement à des tâches, des analyses de production, etc. Et on a regardé ça dans la durée, hein, sur 5 ans. On a regardé ça en comparant aussi avec pas mal d'écoles, d'autres écoles. Puisque, si vous voulez, le problème, c'est de savoir bon, qu'est-ce qui peut être attribuable, je vais y revenir. Mais donc, on a comparé avec pas mal d'autres écoles, de milieux identiques, de milieux plus favorisés, qui pratiquaient la pédagogie Freinet, qui pratiquaient la pédagogie classique, on va le dire vite, hein, bien qu'il y ait des tas de différences et tout, mais on a été voir et on a de préférence choisi des écoles où on estimait que ça tournait bien dans ces écoles, c'est-à-dire pas des écoles parodiques, hein, pour le dire vite, avec, où on avait des maîtres classiques, mais qui s'investissaient, qui voulaient de la réussite pour leurs élèves, etc. Et puis on a cherché aussi à comparer ça avec des écoles qui pratiqueraient d'autres pédagogies alternatives, hein, qui ne seraient pas la pédagogie Freinet, hein, pour voir. On n'a trouvé que 2 classes dans une autre école que je connaissais parce qu'il y avait un doctorant qui avait, Francis Rouelland, qui avait fait sa thèse là-dessus, sur la pédagogie de projet. Alors je vous livre cette information parce qu'on est quand même implanté depuis longtemps dans l'académie, on a cherché. Mais donc, ça veut dire aussi que tous les discours sur les méfaits des novateurs au sein de l'école, si vous voulez, se situent sur tout le territoire national, sauf dans l'Académie du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je tiens à signaler ce caractère absolument atypique de notre Académie aux représentants du ministre. Voilà. Alors, ce qui nous importait, comment dirais-je, de voir, c'est d'avoir effectivement une description assez fine des performances des élèves, mais aussi de voir si réellement, au-delà du sentiment qu'on pouvait avoir, que pouvaient avoir les enseignants, est-ce qu'on pouvait dire que cette école marchait ? Voilà, c'est ce qui nous importait. Puis vous savez, on peut avoir facilement cette sensation, hein. C'est un des gros problèmes. Par exemple, quand on discute avec des collègues enseignants, hein, primaires, secondaires, et même à l'université où j'enseigne, souvent on peut sortir d'un cours en disant bon, ça marche, ouais, ça a marché, c'était bien, ou ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, quoi? Et donc là, bon, vraiment, il s'agissait pour nous de voir si oui ou non ça marchait. Donc de ce point de vue-là, la réponse est clairement oui. Et donc nos résultats sont assez convergents, aussi bien sur le terrain, par exemple, des incivilités, hein, qui ont considérablement baissé, avec une chose tout à fait intéressante, c'est le déplacement des normes chez les élèves, si vous voulez, ce qui fait que c'est assez piégeant au niveau analyse, puisque au bout de quelques années, vous avez des élèves qui disent beaucoup plus que lors du début, que vraiment il y a de la violence dans l'école. Mais c'est parce que leurs normes se sont déplacées, c'est-à-dire qu'ils sont, ils acceptent beaucoup moins toute une série de choses qu'ils acceptaient au début. Donc, vous voyez, il faut aller voir. Et là, sur ce terrain-là, je signale aussi que ça évolue très vite, hein, en même pas quelques mois. Donc c'est aussi quelque chose d'assez interrogeant et qui nous a interrogés d'ailleurs. Dans les différents domaines disciplinaires, c'est clair, hein, avec des variantes, on pourrait y revenir dans la discussion, mais globalement, la quasi-totalité à deux ou trois indicateurs près qu'on a pris, hein, sont assez positifs. Ça a été le cas, je veux dire, au niveau aussi du dialogue, de la discussion, de ce qui tourne autour de la citoyenneté. Bon, voilà. Pour vous dire très très franchement, nous avons été assez stupéfaits de voir une telle convergence. Voilà. Alors qu'au départ, dans l'équipe, il y avait des collègues qui étaient très très réticents. Et donc, bon, ce qui fait, hein, que quand on a commencé à s'apercevoir de ça, on a été chercher d'autres indicateurs encore, parce qu'on se disait qu'on avait dû se planter. Mais bon, voilà. Alors maintenant, encore une fois, on pourra revenir, tout n'est pas parfait, hein. Il y a des choses qui sont plus problématiques. Par exemple, bon, je vais juste vous donner un exemple, l'entrée dans un vocabulaire disciplinaire scolaire, hein. Par exemple, certaines catégories grammaticales classiques ou certaines modalités de codification scolaire en mathématiques, etc. Où bon, ben là, les performances de ces élèves sont un peu moins bonnes. Mais dans l'ensemble, non. Ça va mieux, et on a été voir, du coup, on a repris, on a analysé aussi les évaluations institutionnelles, hein, dont on disposait, qui sont convergentes avec les nôtres. Donc il y a un moment où on se dit que bon, on n'est pas forcément à 10 dans le gaz, etc. Et alors, troisième et dernière dimension, si vous voulez, qui est importante pour nous, c'est... Et c'est en cela que je crois qu'il faut se garder d'aller parfois un peu vite en recherche, c'est construire ceci, c'est-à-dire les performances des élèves, comme effet de cela, c'est-à-dire ce qui est mis en place, les pratiques qui sont mises en place dans l'école, quoi. C'est-à-dire essayer de voir le plus précisément possible qu'est-ce qui fait qu'on peut attribuer ces effets-là à ce qui est pratiqué. Hélas, je veux dire, on est dans des zones de causalité qui sont très très problématiques, hein, pour nous chercheurs en sciences humaines. Et donc là, on a encore essayé, si vous voulez, bon, ben, on a regardé par exemple très précisément ce qui se mettait à bouger entre le avant de la mise en place, puisque tous les maîtres dans ce groupe scolaire ont été remplacés, si vous voulez, à la rentrée scolaire 2001. Donc, qu'est-ce qui avait bougé avec l'école telle qu'elle fonctionnait avant et puis la mise en place de l'expérience, et qu'est-ce qui semblait s'accentuer au fur et à mesure, effectivement, de la mise en place? Parce qu'on voit bien que, si vous voulez, le temps d'immersion dans des pratiques est quelque chose d'important. Et on a vu notamment des phénomènes très très intéressants à partir du moment où commençaient à arriver en primaire des élèves qui avaient commencé à être formés à ces pratiques-là en maternelle. Et ça change énormément de choses. Donc on a regardé donc, d'un point de vue diachronique, on a regardé aussi d'un point de vue synchronique, c'est la comparaison avec les autres écoles. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans les performances? Ça, on a regardé. Et il y en a toute une série. Bon. On a bien sûr regardé dans la littérature théorique qui existait qu'est-ce qu'on trouvait comme convergence dans les expériences mises en place et les effets produits. On a aussi avancé une série d'hypothèses qui nous semblaient plausibles. Et on a regardé aussi les attributions par les acteurs, que ce soit les maîtres, les élèves, le personnel de service, etc., ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, il y a à certains moments des discours récurrents sur telle chose, ah ouais, et là on voit bien que tel élève s'est emparé de tel dispositif, ou c'est à partir du moment où on a fait ça, etc. Donc voilà, on a essayé de brasser, de recroiser tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose qui nous semble tenir. Alors voilà, il me semble que de ce point de vue-là, la recherche pouvait aider à évaluer ce qui marchait. Je crois que nos collègues enseignants de l'école en sont très contents, même si au départ, nos rapports ont été sans doute très difficiles. Et même si on n'a pas voulu évaluer ce que souhaitait qu'on évalue. Parce que eux, ce qui les intéressait, c'était par exemple telle ou telle de leurs pratiques. C'était quasiment qu'on se transforme en expert du mouvement freiné. Or, à mon avis, ça aurait empêché justement la production de la visibilité de ce travail et de ses effets. On a été chercher des choses auxquelles ils ne pensaient pas. Et du coup, par contre-coup, ça leur a permis de bouger aussi. Ils étaient très, très intéressés. Je vais juste vous donner un exemple pour éclairer ce que je dis. On a aussi travaillé dans cette école, comme je l'avais fait avec Jacinthe Giguère, qui était une post-doctorante québécoise au sein du labo, sur tous les cahiers, les classeurs, etc., qui étaient utilisés dans les classes. Voilà. Ça, c'est assez intéressant de voir le dispositif qui est mis en place à l'école primaire. Alors, les résultats, si vous voulez, qui sont très intéressants et qui recoupent d'ailleurs ceux de Anne-Marie Chartier et d'Isabelle Renard, hein, qui avaient publié un article là-dessus intéressant dans Repère, c'est que c'est quelque chose d'effarant. C'est-à-dire que les gamins à l'école primaire, ils sont entre 10 et 13 supports comme ça, différents, classés par discipline, par fonction, par sous-discipline. Enfin, c'est honnêtement, pour s'y retrouver, il faut être bon. Hein. Je vous le dis, à mon avis, c'est pas simple. Et quand on pénètre dans une autre classe, c'est quelque chose d'autre. Bon, et ben là-dessus, c'est une des choses sur lesquelles il n'y a pas grande différence avec l'école Freinet. Alors là-dessus, ça les a un peu ennuyés et ça les a amenés à réfléchir et aussi à repartir sur d'autres choses. Bon. Voilà un petit peu donc ce qu'on a pu faire. Alors après, on pourra en discuter. Je rajouterai peut-être deux choses. Ce qui m'a incité en tant que directeur de labo à accepter de faire ça, puisque j'ai été sollicité par l'IEN, que je connais bien par ailleurs, et qui est quelqu'un de très très bien, c'est aussi le fait que le parti pris était de faire fonctionner cette école sans moyens spécifiques, comme une école de quartier et pas comme une école expérimentale. Voilà, je vous dis ça, c'était quelque chose d'important pour moi, puisque à mon avis, ça modifie considérablement les données, quand on donne des moyens spécifiques et tout. Il n'empêche que, à certains moments, quand une expérimentation se met en place, quand ça marche, il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque Dans cette école, il y avait les chercheurs qui venaient régulièrement, puisqu'il y avait des médias, il y a eu tous les médias nationaux, il y a même eu des médias coréens qui sont passés, etc. Bon. Et même si les Coréens sont intéressés à beaucoup de choses, c'est pas dans toutes les écoles qui passent, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ça veut dire presque paradoxalement qu'il faut qu'il y ait quelque chose de cette dimension-là aussi pour que ça dure. C'est-à-dire, je vais le formuler autrement et assez prosaïquement, il faut aussi qu'il y ait des retours valorisants et gratifiants pour les maîtres, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile au quotidien. Alors maintenant, juste, et je vais conclure là-dessus, parce que je crois au niveau du temps, je crois que je suis. Voilà. C'est est-ce qu'on peut dire après ça que on est plus clair sur en quoi ça contribue à la réussite pour tous, à la réduction des inégalités? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que les performances de ces élèves ont augmenté. Ils étaient en dessous de toutes les moyennes, circonscriptions nationales, etc. Maintenant, ils sont à égalité ou supérieurs. Un, ça, je peux le dire. Deux, c'est des élèves qui ont des productions et des manières de faire très différentes, mais qui ont une dispersion des résultats au sens statistique moindre, ce qui est quelque chose d'interrogeant, ça, et d'assez intéressant. C'est qu'on a dans cette école aucun élève qui n'est pas stimulé. Vous savez, au début, quand ça s'est mis en place, vous avez des collègues bien intentionnés d'autres écoles qui sont débarrassés de certains gamins, hein, en disant aux parents, ah ouais, votre gamin, c'est pas facile, mais vous avez de la chance, il y a une école Freinet qui s'ouvre et tout. Et justement, eux, ils sont spécialisés dans les élèves à problème. Alors, ce qui pose d'ailleurs un gros problème statistique à certains moments, parce que ces gamins qui sont envoyés par d'autres écoles peuvent venir d'autres catégories sociales, si vous voulez, et donc sur des faibles échantillons, ça change un peu la donne, tout en étant des gamins effectivement très très problématiques, hein, au départ. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on s'aperçoit que certains d'entre eux n'étaient plus stimulés dans leur école, c'est-à-dire qu'ils avaient pris l'habitude d'être tranquillement dans leur coin, personne ne les emmerdait, si vous voulez. C'est une manière d'être en paix scolaire. Or, il n'y a aucun gamin non stimulé dans cette école. C'est un truc. Donc, tous bougent, tous travaillent, etc., etc. Bon, ça c'est une chose. Alors, après ça, vous avez certains, effectivement, dont on voit qu'ils explosent, ils s'emparent de manière extraordinaire de cette pédagogie, donc c'est moins net. Donc là, ça vaudrait le coup d'affiner. Et puis aussi, je crois, il y a des choses qu'on a beaucoup plus de mal à mesurer et pour lesquelles il nous faudrait beaucoup plus de temps. Ce sont les effets à moyen et à long terme, si vous voulez. On a pu voir au niveau du collège que ça ne donnait pas la catastrophe que certains annonçaient. Globalement, leur performance était maintenue. Et ils avaient une chose en plus des autres, c'est qu'ils avaient les moyens d'analyser l'institution et de se protéger, de prendre un peu leur distance. Mais sur les effets à moyen et à long terme, bon. Voilà, je crois que ce sera difficile. Effet à moyen et à long terme, et je conclue là-dessus, dans deux directions. Première direction, c'est celle du rapport à l'école. Et là, je ferai volontiers un pari. Alors là, je sors, hein, moi, je veux dire, de ce que je peux étayer sur des données, hein. Voilà, c'est en fonction du travail qu'on a fait. Je fais le pari que le rapport à l'école de ces élèves sera différent, parce qu'ils auront vécu pendant 5 ans, voire pendant 8 pour certains, une expérience scolaire qui n'aura pas été une expérience scolaire de douleur, d'échec, etc. Et que ceci est quelque chose d'intéressant pour la suite de leur vie, voire même la reprise de formation ultérieure, pour les rapports au savoir, pour toute une série de choses, si vous voulez. Deuxième chose, et plus surprenante, c'est pour les enfants dont la vie était plus douloureuse, hein, on a une collègue qui travaille sur les enfants en situation de maltraitance, hein. Donc des enfants, bon voilà, dont la vie n'est pas drôle. Et les analyses dont on a montrent que, alors que la position des maîtres est assez nette et peut surprendre, c'est-à-dire on n'est pas des psychos, on n'est pas des assistants sociaux, etc. On sait que ces gamins sont malheureux, mais nous, on n'y peut rien. En revanche, le travail et la manière de faire fonctionner l'élève au sein de l'école fait que leur souffrance est moindre et que ces élèves, ou du moins certains d'entre eux, retrouvent du mouvement, se remettent à bouger, etc. Et donc ceci nous a aussi étonnés et nous semble quelque chose d'assez intéressant. Éventuellement, on pourra, c'est une piste de réflexion, nous, c'est, comment dirais-je, comment à certains moments et dans certains cadres pédagogiques, l'élève peut contribuer à réparer l'enfant, pour le dire de manière très maladroite. Mais voilà, c'est une.